I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve pour une quatrième saison de l'émission et à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Ce mois-ci, mon invité est journaliste et critique pour France Inter, We Love Cinéma, Combini ou encore La 7ème Obsession. Elle est également créatrice de Sorociné, un média pluriel consacré aux places des femmes au cinéma, et sélectionneuse à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Cette personne formidable et aux multiples talents, c'est Pauline Mallet. Salut Pauline.
Salut Thibaut.
Comment ça va?
Ça va, merci. Et toi?
Eh ben, ça va très très bien. Je suis très heureux de t'accueillir dans l'émission et que tu aies accepté donc, cette invitation-là. Tu es donc sélectionneuse à la semaine de la critique. C'est quoi sélectionneuse de films?
Alors, sélectionneuse de films, c'est un métier qui est effectivement pas très connu, alors que en France, on a de la chance d'avoir énormément de festivals. Eh bien, mon métier consiste à regarder en amont des sélections proposées en festival, en l'occurrence à la Semaine de la Critique, qui est une sélection parallèle au Festival de Cannes, des films avec mes collègues du comité. Et voilà, on regarde beaucoup de films. Par exemple, pour l'année 2022, pour la semaine de la critique, c'est à peu près 1100 films visionnés.
Ah ouais. Et vous êtes combien ?
6. Oh, voilà. Ouais, entre janvier et mi-avril. Et puis après, eh bien, sur les 1100 films vus, on en sélectionne 11. Voilà.
Ah oui, donc la sélection est ardue, quoi. Beaucoup d'appelés et peu d'élus.
C'est ça. Après, on tient à faire un retour à chaque cinéaste parce que voilà, la semaine de la critique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, la particularité de la semaine de la critique, c'est qu'on n'est que des critiques de cinéma dans le comité de sélection. Donc, on a ce désir profond de donner en fait, notre avis aux cinéastes qui nous proposent leurs films. Donc, voilà, c'est un sacré travail. Et puis, qui est récompensé par les sorties de cinéma, ouais. Quand on voit voilà, ces cinéastes qu'on est intimement les premiers à découvrir finalement et les faire le pont entre eux, leurs films et le public au début cannois, puis le public large.
France, voilà.
C'est quelque chose voilà, qui est la plus belle des récompenses en tant que sélectionneuse.
Ah, j'imagine quoi. Et 2022 était donc une belle année.
2022 était une très belle année, la première année de la déléguée générale à Vacaen, qui est également critique de cinéma, qui était une année absolument formidable, avec des nouveaux cinéastes français et françaises qui nous ont régalés, mais aussi des cinéastes du monde entier. Et vraiment, ouais, c'était une sublime année.
Et ben en parlant de sublime année, justement, tu me tends une perche que je saisis. Puisque ce mois-ci, on va se promener avec Pauline au début des années 50 pour un millésime monumental de cinéma au cœur d'une grande décennie de reconstruction. Reconstruction de nouvelles icônes qui apparaissent alors sur le grand écran, reconstruction d'une nouvelle morale et de mœurs qui parcourent la société, reconstruction du regard aussi avec un genre documentaire incisif et polémique. Une année de cinéma qui va se retrouver notamment embellie par un encore tout jeune Festival de Cannes, justement, plus politique que jamais. Bref, aujourd'hui, on discute tranquillement de l'année 1953.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dites-tu, mais qui en disent en langue, en voyant.
C'est si bon, chanté par Eartha Kitt. On écoutait ça en 1953. Alors, Pauline, pourquoi avoir choisi cette année-là, 1953 ?
D'abord parce qu'il y a beaucoup de films que j'aime dans les années 53, notamment Les Hommes préfèrent les blondes, dont on va parler, mais aussi voilà beaucoup de. Enfin, c'est une année particulière parce que lorsqu'on commence à s'intéresser au cinéma de manière un peu approfondie, c'est une année vers laquelle on va un petit peu fouiller parce que les années 50 sont vraiment c'est une décennie complète qui va être à la fois hyper politique en Europe et en même temps qui va créer un Hollywood qui est celui d'aujourd'hui finalement. Les années 50 vont vraiment être les précurseuses, si ça se dit ainsi, de cet Hollywood d'aujourd'hui. Donc moi, ça me passionne plutôt. Et puis évidemment, Marilyn Monroe, qui est une figure qui est arrivée un peu dans ma vie, et notamment cette année, je prends plaisir à la découvrir, à la redécouvrir particulièrement. Donc voilà, c'est une année qui me semblait vraiment super à aborder.
Une année assez massive, effectivement, de films immense, et on va le voir ensemble pendant cette émission. Alors tu l'as dit, 1953, particulière coïncidence, c'est l'année du couronnement d'Elisabeth II comme nouvelle reine d'Angleterre. Elle a alors 26 ans. C'est l'année aussi de la toute première ascension du Mont Everest par Edmund Hillary et Tenzing Norgay, et de la mort de Joseph Staline après 33 ans à la tête de l'URSS. C'est l'année de la première apparition de Speedy Gonzalez, de la sortie de l'album La mauvaise réputation de Georges Brassens, du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et du tout premier numéro du magazine Playboy. Mais 53, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là, les spectateurs se ruent en salle pour découvrir l'image gigantesque du tout nouveau Cinémascope, avec notamment le péplum La Tunique et la comédie Comment épouser un millionnaire. Disney fait un carton avec son Peter Pan. Audrey Hepburn se balade en Italie avec Gregory Peck dans Vacances romaines. Le public frissonne devant La Guerre des mondes et se bidonne face aux vacances de Monsieur Hulot ou au retour de Don Camillo avec Fernandel, qui est tout en haut du box-office français. Mais en 53, tu l'as dit, on est en pleine reconstruction, et à l'écran va alors naître sous les yeux des spectateurs ébahis l'une des plus grandes icônes du XXe siècle, une actrice sans nul autre pareil, qui va devenir une superstar en l'espace de quelques mois. Si je vous dis chevelure blonde, lèvres rouges, mouche noire sur la joue et un nom unique, vous l'avez deviné, celle qui est au cœur de notre premier thème, c'est évidemment Marilyn Monroe. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend, chanté par Marilyn Monroe dans le film Les hommes préfèrent les blondes. C'était donc l'extrait sonore que vous avez entendu à l'instant. Et pourquoi on en parle de Marilyn Monroe? Ben dans ce premier thème, simplement parce que Monroe en 53, c'est trois films et pas des moindres. Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco et Niagara de Henry Hathaway. Trois films qui vont être dans le top 10 du box-office américain et qui vont propulser Norma Jean Mortensen, alias Marilyn Monroe, sur le devant de la scène, et qui devient donc en quelques mois, en trois films, une superstar bankable. Alors, rapidement, avant de plonger notre discussion, Pauline, Marilyn Monroe, avant d'être actrice, elle est top modèle, puis elle devient actrice en 47, dans un premier film qui s'appelle Les Années Dangereuses, et elle fera ainsi 33 films entre 47 et 62, avec des films avec des immenses réalisateurs comme John Huston, Mankiewicz, Howard Hawks, on l'a dit, Otto Preminger, Billy Wilder évidemment, George Cukor ou Laurence Olivier. Et elle décédera le 4 août 62, il y a 60 ans donc, d'une overdose de barbiturique. On l'a dit, Marilyn Monroe, c'est donc une actrice forcément, c'est une chanteuse, on l'a entendu à l'instant, c'est un sexe symbole aussi, c'est une icône, c'est un destin tragique, donc c'est plein de choses. Mais pour toi, Pauline, elle représente quoi avant tout Marilyn Monroe?
Alors moi, je me souviendrai toujours du premier film que j'ai vu avec Marilyn Monroe, c'est Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder. Je découvre ce film alors que je suis au collège. Grosse pensée pour collège et cinéma qui nous ont fait tellement découvrir des films qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement. En tout cas, pas quand on vient d'une famille qui n'est pas cinéphile, et je découvre Marilyn Monroe. Alors moi, Marilyn Monroe, évidemment, je l'avais déjà vue ailleurs, puisqu'aujourd'hui, un peu à l'instar de Frida Kahlo, son image est copiée un petit peu sur tout un tas de choses. Et lorsque je la découvre, je découvre effectivement un personnage un peu particulier dans Certains l'aiment chaud, mais aussi une figure qui me semblait absolument pas représentative de ce que j'avais en tête lorsque je la découvre. Je découvre un personnage drôle, pétillant, vraiment une personnalité, et je pense que c'est ça Marilyn Monroe. C'est-à-dire qu'on a tendance, alors plus trop maintenant, mais en tout cas pendant des années, on a eu tendance à la représenter comme une femme, voilà, un sex symbole, une séductrice, etc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui on parle encore d'elle, en dépit évidemment de son destin tragique qui alimente énormément de théories et une légende, c'est aussi parce que elle est unique. C'est quand même assez dingue qu'elle devienne une icône de cinéma. Ses plus gros succès sont dans la décennie des années 50. Avant les années 50, elle a que des petits rôles, des seconds rôles, et c'est vraiment à partir des années 50 et de l'année 53 notamment qu'elle va se figer en fait en icône de cinéma et en icône tout court.
Pour donc toi, 53, c'est vraiment l'année de naissance de Marilyn Monroe telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Oui, parce que comme tu l'as dit, il y a trois films qui sont un succès à la fois au box-office, donc ce qu'on appelle le succès public, et en même temps un succès critique. C'est-à-dire qu'avant, comme tu l'as dit, c'était une mannequin, on lui a fait prendre un peu des portes pour qu'elle puisse être l'image qu'on avait envie qu'elle transmette, sauf qu'en fait, là est tout la puissance de Marilyn Monroe, c'est qu'elle va jouer de cette image et elle va se révéler être une actrice hors pair. Et ça, c'est quelque chose dont on parle maintenant, mais qui longtemps a été quand même invisibilisée juste pour mettre en avant son corps et son destin tragique et sa relation avec Kennedy, etc. Alors que quand on découvre ses films, c'est une actrice vraiment... elle est époustouflante et on comprend pourquoi lorsqu'elle est découverte au milieu des années 40 par quelqu'un de la Fox, pourquoi cette personne a eu envie de lui faire des essais et que ça a été hyper concluant. Et puis, comme tu l'as dit, elle tourne avec des réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs lambda. On va avoir Otto Preminger, on va avoir Billy Wilder, Howard Hawks. Ce sont des réalisateurs qui sont reconnus et pour leur qualité de réalisateur. Donc, c'est toutes ces raisons pour lesquelles l'année 53 va être hyper marquante pour Marilyn Monroe.
Et c'est vrai que on l'a dit, trois films. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les trois films, donc Niagara, Les Hommes préfèrent les blondes et Comment épouser un millionnaire, c'est vrai que c'est trois films assez différents dans l'esprit, on va dire. Niagara, c'est un thriller ou un drame passionnel, criminel, véritablement. Comment épouser un millionnaire, c'est vraiment une comédie limite burlesque par moment. Et Les Hommes préfèrent les blondes, c'est comédie aussi, mais c'est plus musical. On a trois films avec différentes Marilyn. D'un côté, la femme fatale, celle qui va, comme tu l'as dit, rester beaucoup dans l'esprit avant tout chez les gens, le côté un peu superficiel, mais quand même assez saisissant. L'autre côté, ingénue, un peu comique, voire ce qu'on appellera la dumb blonde, ce qui va beaucoup lui coller à la peau. Donc trois films en fait qui vont montrer aussi la variété du registre de Monroe, c'est-à-dire le drame, la comédie, le musical, parce qu'elle chante aussi, donc c'est multiple talent, et le burlesque aussi, parce que je trouve que c'est une actrice qui a une dimension comique phénoménale, et moi je me suis vu éclater de rire de plusieurs fois devant les films, c'était un bonheur. Il y a aussi un élément moi que je voulais pointer, c'est qu'en 53 on va avoir trois films de Marilyn Monroe, et ces trois films qui vont être en couleur. Et je pense que Marilyn Monroe va aussi naître dans l'esprit des gens parce que elle est en couleur. Avant, elle fait beaucoup de films en noir et blanc et évidemment ils sont aussi qualitatifs, mais elle va rentrer dans l'esprit, elle va se marquer comme une icône visuelle, vraiment icône dans le sens littéral du terme, parce qu'il y a le Technicolor qui arrive et ça va fixer dans l'imaginaire collectif ce côté sourcils noirs, chevelure blonde, lèvres rouges, c'est assez saisissant quoi. Quand on la voit dans Niagara, dans cette robe, elle a une robe dans Niagara rose pétante. Le film joue la carte du Technicolor et de Marilyn Monroe, quoi.
Ah oui, totalement. On la repère, en fait. Et je pense que c'est aujourd'hui, on est encore comme ça en tant que spectateur et spectatrice. Lorsqu'on voit un acteur ou une actrice, souvent, c'est la première chose qu'on voit, c'est l'image qu'il ou elle peut renvoyer. Et effectivement, Marilyn Monroe, avec la couleur, elle devient... c'est tout épétant, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a une chevelure... blonde blanche qui n'existe pas en fait, c'est quelque chose qu'elle va se teindre les cheveux, elle a cette bouche souvent en rouge, ce trait d'eyeliner, des tenues hyper colorées, dont les hommes préfèrent les blondes. Évidemment, il y a cette scène aussi avec cette robe rose bonbon. Donc, le costume, la couleur va faire partie, mais... Enfin, c'est indissociable de Marilyn Monroe. On le verra plus tard dans cet temps de réflexion en 1955. Mmh. Évidemment, la scène, l'une des scènes probablement les plus connues du cinéma avec cette bouche d'égout et cette robe blanche. Mmh. Alors, voilà, paradoxalement, on parle de couleur et elle porte du blanc. Mais en fait, le costume va vraiment faire partie de sa personnalité. C'est effectivement parce que son corps va représenter aussi quelque chose, va dire quelque chose d'elle, mais aussi parce qu'elle arrive à s'en emparer. Et quand elle porte des robes à paillettes, c'est aussi parce qu'elle est pétillante, quoi. On la voit à l'écran, on a envie... Je dis souvent que Marilyn Monroe, ça fait partie de ces actrices qui... Autant en tant que femme qu'en tant qu'homme, on est complètement subjugué par elle. Ouais, on tombe amoureux et amoureuse de Marilyn dès qu'on la voit. Parce que c'est pas que la blonde et cervelée, donc, qui est ce cliché dont tu parlais, la dumb girl, qui est un cliché qu'on va essayer de lui faire jouer. Et en fait, à chaque fois, elle arrive
à le casser, à le tourner, à le tordre, à
en faire quelque chose d'autre. Et je pense que ça fait perdurer en fait aussi son image et c'est toujours très agréable de redécouvrir ces films aujourd'hui qui sont pas tant datés. Quand on voit Les hommes préfèrent les blondes, on est quand même sur un film qui va parler de sexualité, d'argent, de femmes vénales qui sont encore des sujets encore tabous aujourd'hui, particulièrement à Hollywood. On a quand même une femme qui est éblouie par les diamants et qui le dit. Et qui dit vouloir être mariée à un homme riche pour ça.
Des diamants, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment dans les films, et particulièrement dans les films des années 50, avec des femmes fatales, qui vont être des femmes avec des côtés vénales, froides, méchantes, mais en fait, elle en fait toute autre chose. Pas grave, en fait, qu'elle aime les diamants, parce qu'elle chante et elle rigole, et ça nous fait rire, et nous aussi, on a envie de porter ces diamants. Enfin, voilà, il y a un truc un peu d'humour, elle arrive à insérer de l'humour et je pense que c'est elle qui apporte ça aussi. De toute façon, lorsqu'on lit sur sa carrière et les différentes collaborations qu'elle a avec les cinéastes, on voit bien qu'elle insère beaucoup d'elle et ça reste une personne très intelligente et qui sait justement s'emparer de ces rôles là et voilà qui a construit en fait son image.
Et c'est vrai que c'est assez saisissant. Dans Niagara par exemple, c'est comme tu l'as dit, elle inonde l'image, elle bouffe l'image, et dès qu'elle apparaît à l'image, alors soit c'est parce qu'on a été conditionné et qu'on sait que c'est Marilyn et notre regard se fixe dessus naturellement, mais même sans ça, elle fait disparaître tout le monde autour et pourtant elle est entourée de plein d'acteurs remarquables, mais dès qu'elle arrive, c'est assez saisissant. Et tu l'as dit, il y a des choses encore très très contemporaines ou très modernes. Comment épouser un millionnaire, ça reste je trouve que c'est une comédie qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que c'est quand même l'histoire de trois femmes qui prennent une coloc dans un appartement extrêmement huppé de New York. Elles n'ont pas d'argent, mais du coup elles donnent un mois pour dilapider leur argent et elles ont un mois pour trouver un millionnaire pour payer
les comédies qui peuvent sortir aujourd'hui.
Et c'est très drôle. Et
ça pourrait être mode d'emploi, c'est dans la lignée de ces comédies-là, qui vont paradoxalement perpétuer un cliché et en même temps souvent dynamiter tout ça. Donc,
Du coup, c'est drôle parce que Marilyn, dedans, elle joue du coup forcément une femme magnifique avec des magnifiques vêtements et en même temps, elle est myope, mais elle ne voit rien du tout et du coup, elle a cette dimension burlesque où en fait elle demande à sa pote mais il ressemble à quoi, est-ce qu'il est joli, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est sympa, parce que je ne vois rien. Et du coup il y a toujours ce côté mais les hommes aiment pas les lunettes donc je porte pas mes lunettes, et du coup elle laisse ce moteur burlesque en tout cas dans le film, et c'est vrai que c'est un délice. On en a parlé, tu l'as dit, elle est très intelligente, c'est vrai qu'elle sait tout à fait les atouts qu'elle a, et en même temps on n'omet pas non plus la dimension, cette dimension de la machine hollywoodienne qui a besoin pour fonctionner régulièrement de réinventer des choses et de créer des fantasmes et des icônes du désir chez les spectateurs. Donc plein de pistes comme ça. Moi, j'ai une question simple. Selon toi, qui est le véritable créateur de Marilyn ? Qui a créé Marilyn ? Hollywood, elle-même, quelqu'un d'autre ?
Je pense qu'à la base, c'est Hollywood. Elle va être repérée assez jeune pour être mannequin. Alors, ce n'était pas Hollywood, mais voilà, elle va être repérée, elle va être prise en photo. Tout de suite, on va fabriquer chez elle, on va voir un potentiel. Et puis ensuite, on va lui dire, tu sais, ce serait mieux que tu teignes les cheveux, ce serait mieux que... Voilà, donc on va un petit peu la fabriquer. Néanmoins, on le voit à travers ses choix de carrière, elle va s'inventer... En fait, elle va jouer d'une image qui va, bah, comme on le disait dans ses rôles, qui va lui permettre en fait, d'exister en dehors de ça. Il y a encore quelques années, on avait tendance à... Voilà, il y avait des centaines de livres sur elle, le sexe symbole hollywoodien, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte... moi, je l'ai lu plusieurs fois, paraît-il qu'elle avait un QI supérieur à Einstein. Elle est poétesse, elle a écrit des poèmes, des recueils de poèmes. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était très intelligente et qui avait... un recul et une intelligence nécessaire. C'est aussi une personne qui s'est faite toute seule. Elle a eu une enfance très compliquée. Elle a été très vite orpheline, abandonnée de foyer en foyer. Donc, c'est quelqu'un qui est très indépendante rapidement.
Okay. Selon toi, elle est vraiment la principale architecte de Marilyn, c'est Marilyn elle-même.
Bah, oui, et je dirais que en fait, les rencontres qu'elle a pu faire au fur et à mesure de sa carrière lui ont permis en fait, de s'insérer voilà, dans des projets, dans des films, etc. Mais c'est elle même qui prend les décisions. On parle de l'année 53, 2 ans plus tard, elle va faire l'Actor Studio, alors que bon, on se dit qu'elle n'en a pas besoin, elle a déjà fait du succès, enfin elle a déjà connu des films avec du succès à la fois critique et commerciaux, donc pourquoi s'engager dans une formation qui est, comme on le sait, hein, aussi difficile que l'Acteur Studio, elle va quand même le faire. Donc c'est hyper paradoxal, et je pense aussi que c'est pour ça que c'est une figure qui fascine, c'est qu'elle va à la fois représenter tout ce qui est mauvais dans Hollywood, le sexisme, et puis par la suite aussi, elle va finir par se perdre dans ces excès-là, la drogue, l'alcoolisme, etc. Et puis en même temps, paradoxalement, ça reste une figure qui est très avant-gardiste, qui va prendre la parole, par exemple, sur les agressions sexuelles qu'elle a pu rencontrer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant aujourd'hui, de se plonger dans le cas Marilyn Monroe. C'est fascinant pour ces raisons-là, parce qu'on sent bien qu'elle arrive à un moment où Hollywood va, comme on le disait dans l'introduction, va se construire et va être ce qu'il est là. C'est un peu la suite logique aujourd'hui de parler d'elle après les prises de parole liées à MeToo, etc., de remettre en fait Marilyn Monroe au centre de discussion. Moi, je trouve ça complètement logique, justement, de reparler d'elle, mais avec une vision totalement différente, de parler de ses actes féministes, qui, évidemment, peut-être que consciemment, elle ne se rendait pas compte que c'était féministe. Et puis, on n'avait pas encore vécu la deuxième vague féministe aux États-Unis. Mais je pense vraiment que ce n'est pas illogique qu'aujourd'hui, on la remette sur le devant de la scène en la remettant, en lui redonnant une place... beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus élogieuse, et notamment en évitant justement de la replacer au sein d'un regard masculin.
Tu l'as dit, c'est complexe, c'est à la fois Hollywood, c'est aussi elle-même. Ce que je trouve assez formidable, c'est qu'elle a réussi à, on va dire, renverser, on va dire, les tables et renverser un peu la vapeur et se réapproprier sa propre image qu'elle avait, qu'Hollywood lui avait sans doute effectivement volé au début, ou en tout cas shippé au début. Et ça montre sa force, en tout cas, de son intelligence par rapport à ça.
Mais il y a une super anecdote. Avant qu'elle devienne actrice connue, elle pose nue pour un calendrier. Et puis, donc, elle devient connue. Donc, il y a un maître chanteur qui débarque. Et donc, il lui dit, soit tu me donnes de l'argent, soit je dévoile ces photos et qui vont probablement nuire à ta carrière. Et elle décide de les dévoiler elle-même. Et je trouve que c'est une anecdote qui représente très bien Marilyn Monroe, elle va montrer ses images, elle va dire bah voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait que je paye mon loyer. Elle va en rigoler. Lors d'une interview, un journaliste va lui dire mais du coup, vous ne portiez rien. Et elle dit si, la radio, parce qu'en fait, elle porte une radio, elle est nue avec une radio. Donc, bon, ça n'a aucun sens pour les gens qui doivent avoir l'image, mais voilà, c'est un peu cette image. Et je trouve que cette anecdote, elle est formidable parce que on est quand même à l'heure aussi des réseaux sociaux où on peut être face à ce genre de problématiques, ouais. Notamment les femmes voilà, on peut subir aussi ce genre de chantage parce qu'on a peur d'être voilà, d'être décrédibilisé si jamais on voit que je sais pas, on a fait une photo nue. Enfin, encore une fois, c'est un pont incroyable entre son époque et la nôtre, et comment elle a décidé de prendre les choses en main et de dire ah bah tu veux me faire chanter et tu veux m'humilier, et qu'elle prenne en fait en main les choses et qu'elle le fasse avec humour, et que du coup bah voilà, c'est passé au final. Il me semble qu'elle a eu un pic de popularité juste après, et je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle l'a fait sans honte. En étant droite avec elle-même, en ayant la tête droite et en disant bah voilà, c'est pas si grave quoi.
Et c'est vrai que son mythe est toujours aussi vivace aujourd'hui, puisque là on est en train d'enregistrer, on est en septembre 2022, et dans quelques jours, quelques semaines, sort sur Netflix Blonde de Andrew Dominik, qui est un film biopic romancé d'encore une fois de Marilyn Monroe, avec Ana de Armas dans le rôle principal, qui montre encore l'actualité en tout cas de Marilyn Monroe encore aujourd'hui en 2022. Alors un petit fun fact, c'est vrai que là on parle de Marilyn Monroe en 53, et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que de voir quand 53 explose, évidemment Marilyn Monroe, figure iconique d'Hollywood, explose cette année-là, et au même moment une autre figure tout aussi iconique d'Hollywood explose de l'autre côté, on va dire, du prisme de la représentation féminine, puisque on a Audrey Hepburn dans Vacances romaines qui elle va jouer l'opposé, et comme ça les spectateurs en fait de cinéma se retrouvent en l'espace de 12 mois avec deux figures féminines apparemment opposées, l'ingénue et peut-être la femme fatale en tout cas, et qui sont encore aujourd'hui des symboles d'Hollywood dans l'imaginaire collectif. Comme tu l'as dit, les années 50, 53, c'est une décennie importante de construction d'Hollywood.
C'est génial de voir la comparaison de ces deux figures féminines, parce que on a ce cliché du coup de la femme fatale et de celle voilà, très intelligente, à la limite quand même de la femme enfant, toute petite, avec pas beaucoup de forme. Mmh. Et puis à l'inverse, on a la blonde hyper pulpeuse. Donc on a vraiment deux images complètement, comme tu dis, sur le papier complètement différentes, et que de toute façon, le public et les journalistes vont s'amuser aussi à mettre constamment
en opposition
alors même que ce sont deux figures qui n'ont pas à être en opposition. Elles jouent de manière différente dans des films différents, et elles vont à leur manière toutes les deux marquer le cinéma. Et c'est vrai que c'est d'un point de vue juste de représentation et de sexisme aussi, et de...
Ah, c'est des visions patriarcales assez violentes, effectivement. Ouais.
Complètement. On a vraiment l'image aujourd'hui de Audrey Hepburn avec son petit col roulé noir, qui flâne comme ça dans les musées. Elle paraît tellement légère qu'on dirait qu'elle flotte. Et puis, à l'inverse, on a Marilyn Monroe qui débarque avec ses hanches, sa robe à paillettes. Donc, il y a vraiment une opposition comme ça d'imagerie qui va se faire, et qui finalement et encore une fois on peut la retrouver, ces oppositions, aujourd'hui. Tout ce qui nous abreuve en tant qu'image, c'est encore aujourd'hui on peut retrouver ces deux visions des femmes.
Pour conclure ce thème sur Marilyn Monroe, parce que là on a évoqué énormément de choses autour de cette année 53 et autour de sa carrière. On a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de facettes d'elle-même, beaucoup de facettes de l'actrice et de bien plus. Toi, de quelle facette d'elle as-tu envie qu'on se souvienne le plus aujourd'hui en 2022, toi personnellement, Pauline ?
Moi, j'aimerais beaucoup que les gens qui n'ont pas encore découvert ces films, ou qui les ont découverts il y a quelques temps, les redécouvrent aujourd'hui avec un regard peut-être un peu plus éclairé sur l'image des femmes telles que elles peuvent être construites à travers des regards masculins, pardon, et vraiment de la découvrir en tant que qu'actrice formidable qui, comme on l'a dit, peut jouer, qui peut voilà, faire un musical, faire quelque chose de plus tragique. Moi, il y a un film que j'adore d'elle qui va être son dernier, c'est Les Désaxés, qui est un film sublime. Il me semble que tu en avais déjà parlé
avec
ici.
Esther Bojon,
tout à fait. Et ça, c'est un film, encore une fois, qui montre autre chose de Marilyn et j'ai envie de dire elle est, voilà, c'est une actrice formidable et qui malheureusement ce talent d'actrice a souvent été relayé au second plan et au premier plan, bah voilà, on a mis les buzz sa plastique
En dessous de l'essence et finalement de l'important.
Tout à fait.
Revoir Marilyn. Donc.
Tout Marilyn.
Un bon programme pour 2022 et pour les années qui suivent. Merci beaucoup, Pauline. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission consacrée à 1953. On est toujours avec Pauline Mallet et on s'en va sans plus tarder vers notre second thème.
Sous les palmiers photogéniques de Cannes, le festival prend des vacances. Devant Tilda Tamar, Brigitte Bardot passe de l'autre côté de la pellicule pour photographier Abel Gance, tandis qu'un groupe de vedettes découvre la mer en compagnie de Gisèle Pascal. Et tout le monde se retrouve au palais du festival, autour de M. Hugues, ministre de l'Information, et de M. Flo, grand maître du cinéma, pour applaudir la Légion d'honneur de Walt Disney, si modeste qu'on l'appelle à Cannes le plus illustre des inconnus du festival.
C'est le Pathé Journal qui nous informait du Festival de Cannes 1953. Vous avez vu quel programme, Brigitte Bardot, Walt Disney et tant d'autres. C'est donc la 6e édition du Festival de Cannes qui se tient cette année-là du 15 au 29 avril, une édition qui est présidée par Jean Cocteau et qui compte notamment dans son jury Abel Gance, Edouard G. Robinson. Alors, le premier festival de Cannes s'est tenu en 1946. L'histoire a été un peu compliquée parce qu'il n'y a pas eu d'édition en 48 et en 50, notamment en raison d'une concurrence avec la Mostra de Venise. Et donc finalement, ça explique pourquoi en 53, on est seulement qu'au 6e festival de Cannes. Lors de cette édition-là, on a 35 films en compétition officielle et ça montre une édition, et pourquoi on en parle aussi, c'est une édition pleine de diversité et de qualité puisqu'on retrouve notamment Louise Bunuel, Alfred Hitchcock, Jacques Tati puisqu'on a les vacances de Monsieur Hulot, Vittorio De Sica, John Ford et même Peter Pan de Walt Disney. Le Grand Prix, donc l'ancien Palme d'Or, est remis au Salaire de la Peur dans les Georges Clouzot. On l'a entendu dans l'extrait sonore juste avant, il y a eu un prix spécial qui a été remis à Walt Disney et c'était aussi l'année du phénomène bikini porté à l'époque par la jeune Brigitte Bardot et qui va créer sur les plages un véritable scandale. Pauline, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Festival de Cannes, cette édition 53 ?
C'est vraiment une édition riche en thématiques et en... Enfin, comme tu dis, à la fois sur l'écran et en dehors. Enfin, c'est tout ce qui est Cannes aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment du cinéma et à côté, mais plein de choses. Voilà, oui, exactement, du drama. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Si jamais tu n'as pas pu rentrer dans ta séance, ce n'est pas grave, parce que sur la croisette se passera quelque chose. Ouais. Et Cannes, en fait, finalement, voilà, pour cette vraie première édition, comme tu le dis, va déjà être...
toute l'essence, finalement,
exactement.
De Cannes.
Ouais, on sent déjà... Enfin, moi, à travers mes recherches, j'ai déjà senti l'épuisement que ça a dû être pour les gens d'y être. Et en même temps, l'excitation. Voilà, il y a quand même la loi du silence d'Alfred Hitchcock, Le soleil brille pour tout le monde de John Ford. Donc, on a vraiment des films de cinéastes importants et des films avec des thématiques, comme tu disais, hyper diverses et en même temps qui vont représenter l'état du monde. Et ça, c'est quelque chose c'est le Festival de Cannes aussi.
C'est précis et c'est assez clair déjà pour un festival aussi jeune d'être aussi pertinent et incisif comme ça. Justement, tu m'as tendu une perche. Qu'est-ce que ce Festival de Cannes justement nous raconte du cinéma et de cette année 53, de cette époque dont tu parlais?
Tu l'as dit, il y a Peter Pan des studios Disney, pas encore dans la machine Disney, c'est-à-dire que pour l'instant ça reste un studio d'animation avec beaucoup de succès, mais qui n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. On se retrouve avec ça, on se retrouve avec Le soleil brille pour tout le monde de John Ford qui va aborder la question raciale au moment de la ségrégation aux États-Unis. Donc on a vraiment des thématiques hyper fortes qui vont déjà forger ce qu'est le Festival de Cannes dans son essence, à savoir un festival politique, qui fait des choix politiques, même quand il va dire, et là c'est plutôt pour notre époque, quand il va dire qu'il ne fait pas des choix forcément politiques, et que ça reviendrait à dire que certains choix sont totalement apolitiques et dénués voilà, de réflexion autour de ça. Vraiment, on a quelque chose, même tu le citais, Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, ça va parler aussi de la société française à ce moment-là, puisque dans le film, on va suivre des vacanciers. Les congés payés viennent d'arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le grand écran. On va voir, on va faire l'état du monde, en fait.
Cannes a une sorte de pertinence soudaine, alors qu'effectivement, ils en sont dans leurs premières années, quoi.
Bah, ils ont tout approuvé à ce moment-là. Ouais. Voilà, il faut bien se remettre en tête qu'on n'est pas... Enfin, là, aujourd'hui, le Festival de Cannes est le plus grand festival.
À l'époque, la Mostra est plus ancienne que le Festival de Cannes. La Berlinale, il me semble, à l'époque, en 53, a peut-être un an ou deux, donc trois ans, donc c'est vraiment... On n'a pas encore cet éventail de festivals internationaux qui sont des évidences aujourd'hui. La Mostra est certes plus ancienne, mais c'est vrai que chaque festival doit encore trouver son identité, et comme tu l'as dit, peut-être que Cannes, en 53, trouve une identité.
Ben, moi, je pense qu'effectivement, c'est l'année où Cannes va se construire, en fait, et va construire l'image qu'on peut retrouver aujourd'hui, avec voilà, tous ces aspects positifs et négatifs, voilà, comme on l'a dit, c'est avant tout un festival de cinéma, mais à côté va se passer des choses qui vont être relayées par la presse et relayées par les gens présents. Donc on va vraiment avoir toute la construction et la naissance du Festival de Cannes va se faire cette année-là.
Et tu l'as dit, il y a une dimension politique indéniable, et en 53, et notamment en décernant la Palme d'Or, donc le Grand Prix à l'époque, mais en tout cas la Palme d'Or, au film Le Salaire de la Peur de Henri-Georges Clouzot, un film avec Yves Montand, Charles Vanel, Vera Clouzot, qui est adapté du roman éponyme de Georges Arnaud, sorti quelques années plus tôt, et qui raconte rapidement, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, le film raconte en Amérique centrale l'histoire d'une compagnie pétrolière qui va proposer une grosse somme d'argent à qui accepte de conduire deux camions pleins de nitroglycérine sur 500 km de pistes de terre, de pistes, bref, difficiles, pour éteindre un incendie dans un puits de pétrole qui se trouve dans la jungle. Et quatre aventuriers sont choisis et vont entamer un voyage long et très dangereux. Et donc c'est un film qui va être symbolique, puisque c'est un film qui, aujourd'hui encore, est le plus gros succès en salle d'une Palme d'Or. Il va faire 7 millions de spectateurs, et c'est encore un record de Palme d'Or qui n'a pas été battu. Et puis c'est un film qui reste encore dans le top, on va dire, des films les plus célèbres de cette année-là et même de l'histoire du cinéma. Toi, tu te souviens de ta première vision, de ton ressenti ou simplement de ton avis sur le film?
Moi, je l'ai vu à un moment où, quand on commence à être cinéphile, on regarde ces listes sur Internet des films à voir avant de mourir, au cas où. au cas où on nous accueille mal là où on va. Et en fait, le premier visionnage a été quand même assez difficile, parce que c'est un film qui dure quand même pas mal de temps. Il dure à peu près 2h30, il me semble, voire un petit peu plus. Et puis, c'est un film qui va nous embarquer dans un voyage où on va nous parler des aspects négatifs du capitalisme, de la destruction. Enfin, aujourd'hui, ce film, il est fascinant à voir aussi parce qu'on a toute une dimension écologique, économique. Dès les premiers instants du film, on va nous parler aussi de couleur de peau, de colonisation presque aussi, au sens où c'est des hommes blancs qui vont débarquer. Enfin,
il y a vraiment une société américaine qui va prendre le contrôle
Voilà. Il y a vraiment une multitude de thématiques qui, moi, je découvre le film, ça ne m'étonne absolument pas au moment où je le découvre que ce film a été récompensé à Cannes.
Et Alder, il va gagner l'Ours d'Or à Berlin.
Moi, c'est l'image que je me fais d'un festival, d'un festival surtout à grande portée aujourd'hui, en le replaçant dans son contexte comme Cannes. C'est un film qui ne peut pas passer en fait en dehors des radars.
Oui, parce que c'est quatre hommes dans des camions finalement qui roulent sur une route avec derrière eux une bombe prête à exploser.
Il y a un truc de suspense qui est très efficace. C'est un film qui est un peu particulier, parce qu'encore une fois, il va commencer de manière lente, et puis qui peu à peu va nous amener dans un thriller. D'ailleurs, Friedkin va en faire un remake.
Ouais, donc, Sorcerer en 77.
C'est assez une évidence maintenant de se dire ça, d'en faire vraiment un film à haute tension comme ça, c'est évident.
C'est une idée, on va dire, de cinéma assez dingue, le livre de Georges Arnaud. Pour l'anecdote, l'un des membres du jury, Edward J. Robinson, va déclarer au sujet du film de Salaire de la Peur: « Je viens de recevoir un génial coup de pied au bas-ventre quand j'ai vu ce film-là. Et du coup, ça explique sans doute pourquoi il a reçu la Palme d'Or. Alors, tu l'as dit, Le Seigneur de la Peur a cette dimension politique assez importante, puisqu'on parle de capitalisme, on parle de colonisation, on parle de cette Amérique qui écrase tout et qui va amener quatre personnes à se balader au fin fond de la jungle, prêts à se faire exploser au moindre caillou qui heurte leur camion. Pour mettre du contexte, c'est quand même un film qui va provoquer l'ire des États-Unis, qui vont dire bah non, on va le sortir en France, sur notre territoire, mais on va le raboter de 20 minutes, par exemple.
Encore une fois, ce qui est assez paradoxal, c'est que à côté, on a Peter Pan qui va représenter aujourd'hui, un des plus gros studios et probablement cet écrasant capitalisme à l'américaine. Et puis à côté, on a Le Salaire de la Peur. Alors évidemment, encore une fois,
vous pouvez passer une bonne journée, tu regardais Peter Pan le matin, Le Salaire de la Peur le soir. Pas mal.
C'est encore une fois, c'est représentatif du Festival de Cannes où tu peux passer du tout au tout en deux heures. Je trouve que cette palme, avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est un super pari pour eux, parce que je pense que le festival a bénéficié grâce à cette Palme d'Or, parce que tu l'as dit, en salle, c'est un vrai succès, va bénéficier vraiment d'une image et d'un piédestal tout de suite. Il a posé son logo, c'est bon, c'est fait. Le Festival de Cannes, c'est ça, et aujourd'hui c'est encore ça. En fait, on a vraiment des décisions, alors qu'on soit d'accord ou pas pour les Palmes d'Or, je suis pas en train de dire que toutes les Palmes d'Or sont formidables, je ne le pense pas, mais en tout cas que des décisions qui sont prises vont vers des films qui parlent de la société présente, donc vraiment l'année dans laquelle se trouve cette Palme d'Or, je trouve que c'est hyper représentatif. Moi, je suis toujours un peu gênée quand on me dit « ouais, mais c'est un choix politique ou pas ?» Parce qu'en fait, le Festival de Cannes est né d'une décision politique. On parlait de la Mostra de Venise. Ouais. Et ben, le Festival de Cannes naît parce que à la Mostra de Venise, dans les années 40, il y a le fascisme, le nazisme, et qui se sont emparés de la Mostra de Venise pour montrer des films de propagande. Donc on a vraiment un empoisonnement comme ça du cinéma, qui est un art populaire, qui est un art qui va transmettre énormément de messages, que ce soit visuel ou bien plus. Et la décision de créer ce festival vient à la fois d'une envie de montrer la culture française et en même temps de contrer cette décision-là. Donc à la base, c'est une décision politique. Il me semble que lorsqu'on cherche dans les archives, la décision de créer ce festival, c'est vraiment de politiquement être indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministre qui va décider de quels films viennent. Et preuve en est, aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est des comités de sélection, il n'y a pas de gens politiques dedans. Enfin, ouais. Donc il y a vraiment ce désir politique déjà à la base. Donc récompenser des films qui politiquement sont inscrits dans une société, dans un contexte, qui vont transmettre des choses comme Le Salaire de la Peur, comme on l'a dit, thématiquement, ça va parler de tellement de choses. Et tant mieux que les États-Unis veuillent le censurer, parce que c'est tout bénef pour le Festival de Cannes, qui va dire, bah, nous, on a pris le risque de le montrer, et regardez, les Américains, bah, eux, pourquoi ils veulent le censurer? Parce que ça leur fait pas plaisir, parce qu'on les critique. Donc, on le sait encore aujourd'hui, vraiment, il n'y a aucune Palme d'Or où il n'y a pas un buzz autour, quoi. Donc,
Moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'on est en 53, on est donc au début de la guerre froide, qui a commencé une petite décennie avant, et que c'est quand même un film, quand même profondément, tu as dit thématiquement, quand même communiste idéologiquement. Yves Montand était sympathisant communiste. D'ailleurs, quand on va lui proposer de faire le film, au début, il devait tourner en Espagne, il va refuser d'aller tourner dans l'Espagne de Franco. Donc, finalement, le film va se tourner dans le sud de la France. Donc, c'est un film quand même, voilà, avec quand même cette dimension communiste en son cœur, qui raconte finalement voilà, c'est un film avec ses héros, c'est quand même des travailleurs, c'est quand même des ouvriers, c'est quand même des petites gens. Face au choix d'une multinationale. Et au même moment, tu vas voir Le Retour de Don Camillo, où tu as aussi le maire Pépone, qui est aussi communiste. Et donc, c'est aussi un film où tu as ce dialogue, ce discours de, entre guillemets, entre le conservatisme français, le communisme. Donc, mine de rien, là, dans la même époque, dans les mêmes années, tu as, dans des films très, très différents, ce qui traverse l'époque, ces années 50.
Et qui va traverser toute l'année. On parlait juste avant d'Hollywood et de Marilyn Monroe. Enfin, on a quand même deux facettes du cinéma. C'est pour ça qu'on parle de cette année, parce qu'elle est formidable. Mais oui, tout à fait. Et je pense que le Festival de Cannes, ce qui malheureusement parfois a tendance à faire grincer, c'est qu'aujourd'hui, il a du mal, il est tellement blindé de paradoxes qu'on a du mal à s'y retrouver. Mais le Festival de Cannes a, dans son essence, ce rôle aussi. De marquer comme ça,
de marquer les esprits,
de marquer les écrans, de, évidemment de révéler des talents, on est d'accord, mais aussi de on sort d'un film et ce film a provoqué un choc.
Cette année, c'est Triangle of Sadness. Bon.
Voilà, cette année, c'est Triangle of Sadness, l'année dernière, c'était Titane. Enfin, chaque année, la Palme d'Or est questionnée. Et chaque année, on a ce même article de est-ce que c'est un choix politique ou un choix de création. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est indissociable. Mais la création, elle est politique et particulièrement au Festival de Cannes. C'est des films qui font l'état d'un monde et qui, aujourd'hui, si on s'amuse à regarder chaque Palme d'Or de chaque année, le film peut définir à lui-même, comme tu l'as dit, toutes les thématiques de l'année dont il est l'illustrateur, en fait. Voilà, l'année dernière, Titane posait des questions sur le genre. Enfin, cette année, Triangle of Sadness pose la question de l'influence, des réseaux sociaux, etc. Donc, les professeurs d'histoire devraient faire ça, d'ailleurs.
Prendre les palmes d'or des Cannes tous les ans et puis de voir à quel point elle représente son année. En tout cas, effectivement, cette démarche, et peut-être que tout ça a commencé, c'est le sens de notre discussion, peut-être que tout ça a commencé en 1953 avec cette palme d'or décernée au Salaire de la peur, qui effectivement est encore, je le rappelle, la palme d'or à avoir la plus populaire en salle, puisque 7 millions de spectateurs s'est rendu dans les salles cette année-là. Voilà qui conclut très bien ce second thème sur l'année 1953. On a brossé le portrait d'un festival de Cannes polémique, politique, incisif et en tout cas passionnant. On continue sans plus tarder avec Pauline Mallet pour le troisième thème de notre émission.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture.
Cette voix, cette introduction particulière, intrigante, c'est celle du documentaire « Les statues meurent aussi ». Documentaire réalisé par Alain René, Chris Marker et Guylain Cloquet, qui est un documentaire qui va être au cœur de notre troisième thème et un film dont tu voulais parler effectivement absolument, Pauline, dans cette émission. Alors avant de plonger dans notre discussion, petit rappel effectivement, donc réalisé par Alain René qui est donc le réalisateur de films célèbres comme Hiroshima mon amour, on connaît la chanson, Nuit et brouillard, c'est sans aucun doute le plus connu des trois personnages. Chris Marker, également très connu, c'est un réalisateur de documentaires et notamment du film La Jetée, qui va inspirer plus tard L'Armée des Douze Singes. Et Guylain Cloquet a réalisé certes ce documentaire-là, mais c'est aussi surtout un directeur photo de Claude Sauté, de Louis Malle, de Jacques Demy. Donc voilà, un autre talent, un autre artiste dans une autre catégorie. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce documentaire, Pauline ? Qui est un documentaire d'une demi-heure, qui est assez court, et qui va nous raconter énormément de choses.
Ce documentaire, il va nous parler de l'art, comme son nom l'indique. Il va énormément filmer des statues et des édifices africains de manière globale. Ce documentaire, en fait, va replacer l'art noir au cœur d'une société occidentale qui s'est largement servie, en fait, dans les pays que ces Occidents ont colonisés. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, de replacer l'art et donc le peuple, pour le dire large et entre grands guillemets noir, au cœur vraiment d'une intellectualisation et d'une création artistique qui leur appartient avant tout. Donc voilà, c'est un documentaire en 30 minutes qui va...
Il est extrêmement dense. Hein.
Il est hyper dense et souvent il faut le voir une première fois. Puis tout de suite une deuxième pour bien se... Parce que quand on le découvre, en plus, les images sont sublimes parce que, comme tu le dis, c'est Alain René, c'est Chris Marker qui sont des cinéastes et qui sont aussi des photographes. Donc il y a vraiment voilà, ce noir et blanc hyper
profond. C'est vrai que c'est des images de statues, aussi des images d'archives de l'époque. C'est une sorte d'essai vidéo, véritablement.
Oui, c'est vraiment un ovni, en fait, ce film.
Un objet particulier.
Tout à fait. Et qui, voilà, un objet, tu l'as dit, qui a été commandé par une revue. Donc il a presque cet objet d'art, en fait, en lui-même.
Oui, c'est peut-être un objet d'art qui questionne l'art, parce que ça questionne l'art, ça questionne la société, ça questionne la colonisation. Ça parle évidemment de lutte des classes, de racisme. En une demi-heure, c'est extrêmement dense. Et c'est fait Moi, je l'ai revu pour l'occasion. Je l'avais vu au lycée. Je l'avais découvert au lycée en cours d'histoire. Et c'est vrai que ça m'avait déjà saisi à l'époque. Et je sais que quand tu l'as proposé dans l'émission, je fais « Ah oui !» Et du coup, je l'ai revu. Vous pouvez le trouver. Je crois qu'il y a eu des éditions Rennais documentaires, oui. Mais je crois qu'il est trouvable sur Internet, il me semble aussi, sur YouTube. Oui. Et en fait, tu as ce côté où en fait, c'est un film qui va nous dire « Repensez votre conception de l'art. Repensez quand vous allez au musée, repensez ce que vous regardez véritablement. » Et c'est vrai qu'on a commandé ce documentaire à Alain René. Il a dit « On nous avait commandé un film sur l'art nègre. » Je cite ces mots. « Chris Marker et moi sommes partis de cette question. Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au musée de l'homme alors que l'art grec ou égyptien est au Louvre ?» Oui. Et cette phrase-là, fondamentale donc, de ce documentaire, pose véritablement la question de qu'est-ce que la société fait de l'art.
Oui, bah c'est la vision de, pour le dire vite, de l'homme blanc sur l'homme noir en fait. Et je trouve, et c'est aussi en ça que j'avais très envie d'en parler aujourd'hui, c'est que ça fait un pont incroyable entre du coup les années 50 où ouais. Ce film va être un feu d'artifice parce que pour la première fois en fait on parle de colonisation et des aspects hyper négatifs, comment les sociétés occidentales en fait se sont nourries en volant en fait l'art, les objets, et tu l'as dit dans la citation, voilà, on a à la fois colonisé les bêtes, les hommes, mais il fallait aussi coloniser leur art, tu
oui,
vois.
Ça parle pas de la terre, ça parle pas d'armée, ça parle d'une colonisation culturelle et plus insidieuse véritablement.
C'est ça, et je trouve que aujourd'hui, voilà, on peut pas aller au musée et pas se poser la question. On est là quelques jours après le décès de la reine Elisabeth II. C'est une question qui est revenue tout de suite sur le devant. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on est prêt à écouter en fait cette parole, alors que dans les années 50, c'est encore trop, disons.
Ça a créé un scandale et même une affaire parfois d'État, parce que le film va être censuré, repoussé. Il va finalement être relâché, libéré et visible pour tout le monde, genre 10 ans ou 15 ans après. Enfin, ça va. C'est oui. Un film qui va quand même rester longtemps caché. Par l'État qui va dire non, qui va du coup pas lui délivrer son fameux visa pour être visible.
Tout à fait, et je pense parce qu'il y avait à la fois pas une envie de parler de ça, et aussi qu'il y avait pas d'oreille attentive en fait, et pas l'envie aussi de se déconstruire et de regarder aussi notre histoire en fait, et de se poser la question, parce que c'est toujours douloureux en fait de se rendre compte d'un passé qui n'est pas glorieux et qui bien au contraire est meurtrier quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant aujourd'hui de voir que tout de suite on va en parler alors que dans les années 50 c'est
évacué
et bien au contraire il faut à tout prix sceller cette parole, il faut pas l'entendre, il faut pas parler de colonisation, il faut pas parler, parce que voilà, on est hyper fiers de montrer nos musées au monde entier. Oui, mais ces musées, beaucoup de pièces de ces musées ont été en fait volées. Elles n'ont pas été.
Et ne sont pas des œuvres d'art. Et en fait, c'est le regard blanc qui va leur donner cette dimension d'œuvre d'art, alors que c'est absurde et que c'est effectivement de l'appropriation et du vol et un aspect terrible de cette colonisation. Et tu dis, ce documentaire et cette humeur aussi a cette pertinence, 70 ans après encore, de nous dire des choses très, très actuelles et très.
Ah oui, moi je pense que vraiment c'est un documentaire. Alors il me semble qu'il, de toute façon, il est montré dans les classes, que ce soit au lycée ou par la suite lors d'études d'histoire ou de cinéma par exemple. Et je pense que c'est un documentaire qui aujourd'hui a tout à fait sa place. Parce que même si le langage a changé, certaines utilisations de mots ne sont plus acceptées à juste titre à notre époque, néanmoins c'est un documentaire qui révèle beaucoup de choses et qui peut en fait planter aussi une graine de questionnement en fait.
Remise en question des.
Tout à fait. Et puis c'est court, c'est 30 minutes. Alors effectivement, c'est très dense, mais ça reste quand même assez accessible. Mmh. Et aujourd'hui, c'est plus que pertinent. Enfin, c'est juste quand on le voit aujourd'hui, la question se pose même pas.
Et c'est d'une pertinence assez folle en 53, puisque quand sort le film en 53, et ça explique aussi souvent, aussi surtout, pourquoi c'est un film qui a été mis sous clé pendant quelques années, c'est que c'est, on est en 53, on est quand même un an avant le début de la guerre d'Algérie, on est un an avant la fin de la guerre d'Indochine, on est un an avant en fait le début d'une grande époque de décolonisation et d'indépendance où il va y avoir à la suite le Maroc, la Tunisie, l'Afrique occidentale qui vont arriver dans les années 50-60. Donc mine de rien, ce film-là, ce documentaire-là, raconte quelque chose de son époque. On raconte quand même l'émergence d'un discours, d'une force populaire ou en tout cas de anticoloniale.
Ah, c'est pour ça que je parlais de graines plantées en fait. Ouais. Il y a une espèce de au regard aujourd'hui avec le recul, comme tu le dis, c'est vraiment un film qui va arriver à un moment qui est un moment hyper important justement pour le monde entier,
du 20e siècle,
et pour la reconstruction en fait des pays. Après des années et des années de colonisation, de désir aussi de soumettre en fait des peuples à d'autres. Et oui, enfin pour toute cette raison, c'est un objet, voilà, comme on le dit, c'est un court métrage documentaire, mais c'est aussi un objet d'art, un objet d'histoire. Déjà aujourd'hui, ça peut bousculer, je pense, certaines personnes, mais alors à l'époque, ça devait être.
Alors que c'est passionnant. Alors qu'effectivement, oui. À voir en 2022, pour l'avoir effectivement revu pour l'émission, c'est 30 minutes passionnantes, denses certes, mais magnifiques, tu l'as dit, avec de magnifiques images de Chris Marker et Alain René, et Guylain Cloquet donc, et c'est passionnant dans le fond et dans la forme. Tu voulais vraiment qu'on parle de ce film-là, parce que justement, il y avait ces ponts créés entre les années 50 et notre époque, 2022. Est-ce que toi, du coup, tu aurais des recommandations de films ou de documentaires plus actuels, plus récents, qui pourraient peut-être compléter notre suggestion de voir Les Statues meurent aussi?
Quand tu m'as posé la question, l'année dernière, j'avais vu en fait une série documentaire sur Arte qui est encore disponible. Donc, encore une fois, c'est hyper accessible, qui s'appelle Décolonisation. Donc là, tout est dans le titre, et qui est raconté par Reda Kateb. Donc je me suis dit, c'est en plus on parle de cinéma, ouais. Qui va être vraiment une série documentaire faite principalement via l'archive, et qui va être l'extension assez naturelle de Les Statues meurtes aussi. Alors évidemment, on ne va pas s'intéresser qu'à l'art, mais là on va s'intéresser vraiment aux populations, et c'est hyper touchant parce que, enfin, à la fois c'est touchant et c'est alarmant, mais on a vraiment des ponts qui sont créés entre ces images d'archives et aujourd'hui, et principalement en France. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à mettre sous le tapis en France, en disant, voilà, en parlant par exemple de la ségrégation américaine, de la colonisation anglaise, et puis en France on met un petit peu sous le tapis et puis on dit, bah c'est pas vraiment nous, c'est nos voisins. Et là en fait, décolonisation va vraiment parler des colonies françaises. Et de la manière dont la France vraiment a colonisé des pays, voilà, comme l'Algérie par exemple. Et c'est hyper accessible, c'est pas indigeste, c'est facile à avoir parce que c'est sur Arte, la voix de Reda Kateb est superbe, en plus il fait un parallèle avec sa propre famille, donc il y a vraiment un truc aussi d'intime. Un lien très intime qui va se lier, et je pense que c'est aussi une belle manière en fait de raconter, ou en tout cas de raccrocher des personnes qui seraient pas totalement accrochées par ce sujet, de les raccrocher par le biais d'un lien en fait familial.
Plus intime. Ouais. D'accord. Décolonisation donc sur Arte, Les Statues meurent aussi. Documentaire de Guylain Cloquet, Chris Marker, Alain René, qui a été au cœur de notre troisième thème et qui est disponible, visible sur YouTube notamment, et il me semble qu'il est également dans plein de collections de DVD, notamment sur les documentaires d'Alain René. Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème de notre émission consacrée à 1953. On va pas vous laisser comme ça et on s'en va filer vers notre petit moment recommandation de l'émission avant la fin. Voilà, comme d'habitude, on vous laisse avec nos petits coups de cœur de cette année 1953. On a parlé de beaucoup de choses, de Marilyn Monroe, du Festival de Cannes avec le cerf de la peur, là, du documentaire d'Alain René, de Guylain Cloquet et de Chris Marker, Les Statues meurent aussi. Mais on a aussi des films qui nous ont plu en 53. Et toi, tu avais un coup de cœur particulier cette année-là. Quel est-il, Pauline?
Alors, c'est Lettres d'amour de Kinuyo Tanaka, qui est donc... à la base une actrice, et puis qui, cette année 53, va réaliser son premier film, donc qui s'appelle Lettres d'amour, qui d'ailleurs va être au Festival de Cannes en 1954. Donc, tu vois, je te fais des
comme quoi,
des
tout.
Ponts. Donc c'est le premier film de Kinuyo Tanaka en tant que réalisatrice. Donc on va avoir aussi cette dimension de... ça, c'est une des premières réalisatrices japonaises qui va parler de maternité, de sexualité.
Ça parle de quoi, ce film-là, justement? Ça raconte quoi comme histoire?
Alors, l'être d'amour va raconter l'histoire d'une femme qui est sortie, en fait, avec un marin. Ce marin va être complètement obsédé, en fait, par cette femme qu'il a perdue de vue parce que son métier, et puis elle a mené un petit peu sa vie. Donc on va être vraiment dans un film où on va suivre ce personnage errer en fait dans les rues de Tokyo. Et ce film va vraiment raconter l'errance de ce personnage qui va rencontrer un autre personnage qui veut ouvrir une librairie. Donc il y a vraiment ce côté chronique de vie que Kinuyo Tanaka va nous raconter. Pourquoi lettre d'amour? Parce que ce personnage va écrire des lettres d'amour pour des jeunes femmes abandonnées par leur mari, soit dans l'armée, soit marin, etc. C'est un film qui va être assez représentatif en fait de toute la filmo de Kinuyo Tanaka, que moi j'ai découverte en début de cette année parce que il y a eu une sublime rétrospective par Carlotta d'ailleurs qui a sorti un coffret. Formidable. Donc voilà, si vous voulez découvrir toute son œuvre, je vous invite vivement à le faire. Et qui va être une réalisatrice qui va vraiment parler de l'intime, tout en insérant des questions politiques. Dans Lettres d'amour, c'est parler de d'amour, mais aussi d'abandon, parce qu'on a décidé de prendre un rôle dans notre société, dans notre armée en l'occurrence. Elle a fait un sublime film 2 ans plus tard qui s'appelle Maternité éternelle, où elle va parler d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Donc,
très très actuel. Enfin, il y a des...
Et
moderne dans ces thématiques.
Totalement, dans ces thématiques, elle va être hyper moderne. C'est vraiment fascinant à voir aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est une cinéaste qui filme d'une manière sublime, qui va vraiment avoir un sens du cadre, de la beauté de l'image, qui va filmer des petites parties du corps qui ne sont pas encore totalement censurées. Mais on sent qu'il y a un désir vraiment d'indépendance aussi dans sa manière de filmer. Donc c'est des films tous qui à la fois racontent quelque chose de magnifique et qui en même temps va être aussi une inventivité en termes de mise en scène assez incroyable.
Lettre d'amour de Kinuyo Tanaka, c'est donc ton coup de cœur de cette année 1953. Merci Pauline. Alors de mon côté, moi je vais vous recommander un film qui est tout particulier pour moi, parce que tu parlais au début de l'émission du film que tu as découvert lors de collège-lycée au cinéma à l'époque. Moi, c'est le film Monica de Ingmar Bergman que j'ai découvert moi à l'époque au lycéen au cinéma. Quand j'avais 16 ans à Annecy, et c'est ma recommandation de 53, Monica ou Un été avec Monica d'Ingmar Bergman, qui est un film qui raconte l'histoire de Monica, une jeune fille éprise de liberté, et de Harry, un jeune livreur, qui vont profiter de l'été pour fuir leur famille et partir vivre sur une île. Mais après un été insouciant et à l'abri de tous, le couple va devoir se confronter à la dure réalité du quotidien. On parlait de modernité et d'actualité juste avant. C'est un film qui est très très moderne, puisque c'est un film qui va parler du couple, du rôle qu'on attend d'une femme dans une société, d'un homme dans une société, d'un couple dans une société. Qu'est-ce que doit être un couple? Donc c'est assez intense, et c'est réalisé par Ingmar Bergman, qui est donc un réalisateur suédois reconnu, qui a fait Persona, qui a fait Les Fraises Sauvages, qui a fait Le Septième Sceau, et qui est selon moi un grand réalisateur de ce que j'appelle l'expérience humaine. Et Monica le fait très très bien, puisque c'est un film qui va parler du conditionnement social et de tout ça, et en même temps qui est très solaire, parce que c'est un film d'été. Ils sont sur une île, ils se baignent nus, il y a Harriet Anderson dans le rôle principal qui joue Monica, qui est sublime. Alors il faut évidemment imaginer qu'à 16 ans, quand on voit Monica, c'est très particulier. C'est un film qui est très très érotique, et dans ce film là peut-être qu'il y a un plan qui vaut peut-être le détour plus qu'un autre, puisqu'il y a un regard caméra fameux où cette fameuse Monica nous regarde, nous spectateurs, dans les yeux de manière assez frondeuse, comme si elle nous posait la question de qu'est-ce que tu vas faire, comment me juges-tu. Je ne dis pas pourquoi on devrait la juger, mais en tout cas c'est peut-être ça qui vous donnera envie de découvrir ce film-là. Donc voilà, ma petite recommandation pour 53, Monica de Ingmar Bergman, un film formidable. Voilà qui conclut ce premier épisode de la 4e saison d'Année Lumière, consacrée à 1953. Merci à mon invité Pauline Mallet. Merci beaucoup Pauline.
Merci pour l'invitation.
Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et bien sûr Tsugi Radio. Enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application Utip, UTIP. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.